Nous avons suivi le Seigneur dans les étapes de sa mort, dans les souffrances qu'il a subies. Et c'est aussi un bienfait que de pouvoir dire qu'il y a une suite et que nous pouvons parler de la résurrection du Seigneur Jésus. Et je vous invite à lire un texte qui est la prédication, la première prédication vraiment chrétienne dans le livre des Actes au chapitre 2, les versets 22 à 36. C'est la façon dont cet homme vous a été livré suivant le projet de Dieu et sa prescience. Vous l'avez fait mourir sur la croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible que la mort le retienne. En effet, David dit à son propos, « Le tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. » Mais il était prophète et il savait que Dieu avait juré par serment de faire surgir un de ses descendants pour le faire asseoir sur son trône. C'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant crucifié. Jusqu'ici, notre lecture. Cette prédication de l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte à Jérusalem, est en soi un événement d'une portée. Il nous faut retourner un petit peu en arrière et nous souvenir de ce que nous avions dit lors de notre réaliser ce qu'il avait annoncé, sans que le royaume ne soit pleinement manifesté. La mort de Jésus, pour ceux qui l'ont vécu dans le cours des événements, ça a été cela. La mort de Jésus pour ses disciples, pour ceux qui l'ont connu, pour ceux qui l'avaient suivi, ça a été ce couperet final, la preuve d'un loupé, la fin de tout ce en quoi ils avaient cru, de tout ce en quoi ils avaient espéré si fort. Et il faut bien comprendre la façon dont ces hommes, ces femmes ont vécu ce moment de la mort de Jésus. Autant dire que normalement, de foi en Jésus, l'histoire, si les choses avaient simplement suivi leur cours, aurait dû retenir simplement qu'un homme galiléen avait paru, avait fait des miracles, avait été suivi par des disciples et par des foules, mais qu'il avait péri tristement, exécuté comme un coupable. Fin de l'histoire, comme la fin de tant d'autres histoires de prétendus messies. Il y en a eu d'autres avant qui avaient dit qu'ils étaient le messie, qui avaient annoncé de grandes choses et qui avaient terminé eux aussi sans que ça n'aboutisse. Fin de l'histoire, comme celle de tant d'autres, qui s'arrête avec la mort de celui qui n'a pas apporté, anéanti, s'est retrouvé quelques semaines plus tard, forte d'une vigueur incroyable, bravant toutes les menaces et partant à la conquête du monde, dans une joie, dans une jubilation impossible à contenir. Et il y a là, historiquement, quelque chose d'absolument remarquable, d'absolument inattendu, d'absolument incongru. Ce fait, il faut lui donner une explication suffisante. Pas une explication bricolée, mais une explication qui soit à la hauteur de ce changement. Si c'est vrai, ça change tout. Ça change absolument tout. Mais n'est-ce pas trop beau, justement, pour être vrai ? N'est-ce pas de ces croyances qu'on se crée parce qu'on a trop besoin d'espoir, parce qu'on a trop besoin de croire ? Il nous faut examiner cette question si vitale, si importante. Qu'est-ce qui nous permet d'avoir confiance vraiment dans cette question de la résurrection, dans cette affirmation ? Quelque chose d'absolument unique. Si au contraire, la résurrection de Jésus est un mensonge ou une illusion, à ce moment-là, c'est le naufrage de la foi chrétienne. C'est ce qui lui ôte toutes ses prétentions à apporter ce qu'elle prétend. Et vous voyez qu'il y a là quelque chose de central, absolument. Un premier enjeu concerne la personne même de Jésus. Si la résurrection de Jésus est attestée, elle désigne Jésus comme l'unique. Il est le seul, l'unique. C'est en quelque sorte écoutez-le dans ce qu'il vous dit de Dieu. Écoutez-le dans ce qu'il vous dit de vous. Écoutez-le dans ce qu'il vous dit du salut, dans ce qu'il vous dit de la vie. parce qu'elle veut dire qu'il est possible qu'il y ait une irruption de l'œuvre de Dieu dans ce monde et une œuvre ressuscitée. Cela atteste que rien ne peut nous séparer de cet amour de Jésus-Christ qu'il a manifesté. On peut être plein de confiance pour nous-mêmes. On peut être plein de confiance aussi pour ceux qui appartiennent au Christ et qui sont peut-être partis, qui sont décédés. Ils sont dans les mains du Christ, ils sont dans sa lumière. On peut être confiant pour eux. Vous voyez que la résurrection donne à notre foi sa dimension de lumière, d'espérance, de manière absolument fondamentale. Donc il y a des enjeux très importants à cette question de la résurrection. Et il ne faut pas s'étonner de ce que certains absolus s'emparent absolument de ces témoins. Donc il y a là quelque chose qui sera très important. Alors comment donc se présente cette question de la résurrection? Comment savoir si vraiment il y a là quelque chose d'attester ou non? Quels sont les moyens qui sont à notre disposition? D'abord quelques mots sur l'approche des événements. Comment se présente ce dossier résurrection en quelque sorte? Il faut d'abord dire que ce dossier résurrection se présente à nous avec des limites. Des limites qui pour certains étaient vides. Donc ça c'est une chose. Et les disciples ont déclaré avoir rencontré Jésus vivant. Ça, c'est l'autre chose. Mais l'événement même de la résurrection, personne ne l'a vu en tant que tel. Il n'y a que les témoignages sur la rencontre du Christ vivant. Deuxième limite, c'est que les seuls récits que nous ayons sont des récits écrits par des croyants. Il n'y a pas de témoignage neutre sur cette question, pour un certain nombre de personnes en tout cas. Troisième limite, c'est que Jésus ressuscité ne s'est à aucun moment manifesté vraiment à la foule entière, au peuple entier rassemblé. Lorsque, dans son ministère public, il avait toujours des foules autour de lui. Jésus ressuscité n'est pas à une limite, c'est qu'il n'y a aucun récit complet qui ferait le fil du matin au soir d'une synthèse chronologiquement minutée des apparitions de Jésus, en particulier pour cette folle journée de la résurrection, le premier matin de Pâques. Les récits des quatre évangiles sont différents. Les certitudes que l'on a, à partir desquelles on peut construire notre réflexion. Première certitude, c'est la crucifixion de Jésus. Il faut revenir là. C'est attestant de la croix. L'eau mêlée au sang, quand on a percé le côté de Jésus, elle entre eux, ça veut dire qu'ils sont des récits assez indépendants. Ils ne s'emboîtent pas immédiatement. Ils n'ont pas été construits pour vraiment coller tout à fait parfaitement. Le fait qu'on ait quelques difficultés à les harmoniser, en tout cas, dit que ça n'a pas été construit d'une manière pour être bien lisse et que ça fonctionne vraiment comme un récit unique. Mais quand même, la question, est-ce que cette histoire n'a pas pu être construite? Alors, cette hypothèse a été faite qu'on a pu construire ces récits. Mais elle ne tient pas. Ce qu'il faut simplement savoir, c'est que, donc c'est dans le récit de la résurrection, c'est elles qui sont les principaux porte-paroles de la résurrection de Jésus. Ce qu'il faut simplement savoir, c'est qu'au temps de Jésus en Israël, le témoignage d'une femme n'avait aucune valeur juridique. Alors c'est triste, mais c'était comme ça. Le témoignage d'une femme n'avait aucune valeur juridique. Alors imaginez que vous voulez créer un récit pour faire croire que Jésus est ce fait à la base s'impose pour la suite du récit. Donc c'est important de rappeler que justement ce récit donc, n'apparaît pas du tout comme un récit construit. Avec les autres éléments que j'ai dit sur le fait qu'ils sont assez indépendants les uns des autres. Et ça mène bien des spécialistes à reconnaître qu'en fait il faut s'accorder sur ce que dit ce récit. Toute chose nouvelle. C'était ça ce que le Messie devait apporter. Il apportait toute chose nouvelle. Si le Messie mourait avant, c'est juste qu'il n'était pas le Messie. S'il n'avait pas fait toute chose nouvelle, c'est qu'il n'était pas le Messie. D'autres avant Jésus avaient suscité les mêmes espérances et leur mort s'est trompé, point barre. C'est une première chose. Quant à deuxièmement, l'idée de résurrection même. Cette idée de résurrection n'était pas du tout conçue chez les Juifs. Pas la résurrection, c'était la résurrection générale. Le Messie devait apporter la résurrection générale, point. C'est tout. Et simplement réanimé, les disciples l'auraient vu, et la conclusion qu'ils auraient tirée, c'est de dire, mais oui, mais tu n'es pas mort, finalement, c'est magnifique, tu n'es pas mort. Et ça serait très bien aller avec ce qu'ils espéraient. La mort de Jésus était quelque chose qui était si dur pour eux. Hein, donc, mais c'est pas cela, l'histoire de Jésus. Jésus est apparu comme vainqueur, ils ont tiré la conclusion qu'il est ressuscité. Hein, donc, vous voyez, cette idée d'une réanimation de Jésus ne fonctionne pas. Alors, l'autre hypothèse, c'est que les disciples aient monté un coup, qu'ils aient enlevé les disciples ont été amenés à défendre ce qui n'aurait été qu'un coup monté. On sait que, après, quand ils ont annoncé la résurrection, les disciples ont été persécutés. Certains ont été mis à mort à cause de ce témoignage à la résurrection de Jésus, qu'ils affirmaient très fortement. Et personne n'a lâché. Personne ne s'est rétracté en disant « Ah ben non, 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 en fait, c'était un coup monté. » Il y a un des conseils de Nixon, qui s'appelle Charles Colson, qui est devenu chrétien, était impliqué dans cette affaire. Et il raconte ce qui se passe dans une équipe qui a monté un coup comme cela, à partir du moment où le navire prend l'eau. Il y a un temps où on essaye d'être solidaire, de tenir ensemble l'affaire, qui consiste à dire, est-ce que peut-être ils ont été bernés par quelqu'un qui aurait déplacé le corps de Jésus, qu'ils aient cru en toute bonne foi que Jésus soit ressuscité parce que le tombeau était vide, mais c'est juste que quelqu'un avait qui a été prêché très très tôt après l'événement juste à Jérusalem, ce mystère, mourir, bon, ça confirme le fait que on avait raison de ne pas croire en lui. Comment expliquer le fait que ces gens-là se retrouvent maintenant aux côtés de ceux qui sont en train de dire « Oui, mais Jésus est vivant. » Il faut quand même dire qu'il y a quelque chose qui soit passé. Il faut bien que quelque chose se soit passé pour cela. Et de même, comment expliquer que quelqu'un comme l'apôtre Paul, qui s'opposait à la foi chrétienne, tout d'un coup se retrouve comme le plus grand défenseur de la foi chrétienne. Il faut bien que quelque chose se soit passé. La réponse que donnent les évangiles à ces changements brutaux, ces changements radicaux, tiennent en un mot, en une phrase, c'est que Jésus est apparu. Jésus a été vu. Hein? Il y a une manifestation de Jésus, manifestation positive, pas simplement en creux du tombeau vide, mais en réalité par la présence même de Jésus. Il y a plusieurs récits, donc apparition aux douze, apparition à Jacques, il est question d'une apparition à Jacques, apparition en particulier à Pierre, apparition à plus de 500 à la fois. Et il y a là donc des témoignages qui nous sont donnés. Alors que penser de ces apparitions de Jésus? Les récits d'apparition sont toujours à manier un peu avec prudence, hein. Il y a beaucoup d'illusions, de conditionnements qui peuvent faire croire qu'on a une apparition de quelque chose. Il faut bien tester les choses quand on parle d'apparition. Alors, que dire de ces récits d'apparition? Premièrement, ce qu'il faut dire, c'est que, comme j'ai essayé de vous dire plusieurs fois, ces récits ne sont pas des faits isolés. Hein? Le Nouveau Testament ne nous laisse pas juste avec deux ou trois récits d'apparition pour nous inviter à croire en la résurrection. Mais il nous présente d'autres faits qu'il faut prendre en compte. Cette assurance des disciples, la présence de Jacques, frère de Jésus, le retournement de quelqu'un comme Paul, la présence, la foi de quelqu'un comme Thomas qui au début ne voulait pas croire. Donc si vous voulez, il y a la question sur l'apparition, mais il y a aussi le fait qu'on voit des signes très concrets, des changements très très brutaux dans la vie de personnes et changements auxquels il faut donner une explication qui est nécessaire. Et là, on n'est pas dans le surnaturel, on est dans le constat d'un changement auquel il faut donner une explication. Quelles sont les personnes concernées? Est-ce que c'est des personnes qui étaient conditionnées pour attendre une apparition? Pas du tout. Ces apparitions interviennent chez des gens qui n'étaient pas vraiment susceptibles de se les créer eux-mêmes. Jacques, frère de Jésus, est l'exemple flagrant de ça. Il croyait pas en Jésus. Il croyait pas en Jésus, la mort de Jésus confortait ce qu'il avait toujours dit. C'est pas comme les disciples qui, eux, avaient été, les apôtres qui avaient été disciples, hein. Pour eux, c'était une rupture. Pour Jacques, apparemment, ça pouvait être une assez bonne nouvelle en disant, voilà, Jésus, il prétendait être quelque chose, mais il a pas fait comme il aurait dû. Ben, il a ce qu'il mérite. Quelqu'un qui n'attendait pas, une suite. Et pourtant, Jacques est là. Et dit, oui, il est vivant. Quelque chose là très très fort. Et l'apôtre Paul, c'est pareil. Donc les gens qui ont été comme ça retournés, ce ne sont pas des gens qui, qui attendaient eux-mêmes quelque chose en particulier. Hein. Et chacun dit, mais il m'est apparu. Et c'est ça la seule raison qu'ils peuvent dire à ce changement qui est intervenu pour eux. Il faut quelque chose de très fort pour expliquer leur présence à ces gens-là comme témoins du ressuscité. Et je crois qu'il faut bien se rendre compte que les apparitions donc, de Jésus ressuscité dont nous parle le Nouveau Testament ne sont pas provoquées par le besoin de croire. Ce n'est pas parce qu'on a besoin de croire qu'on a une apparition, mais au contraire, c'est des apparitions qui bousculent des personnes qui s'accommodaient assez bien de la mort de Jésus. Hein, c'est le cas de Jacques, en tout cas, et le cas de Paul. Alors, qu'en est-il des autres apparitions? Ce qu'il faut dire, c'est que ce sont vraiment des événements très indépendants les uns des autres. Elles arrivent dans des circonstances très diverses. Il n'y a pas de modèle unique d'apparition. Il n'y a pas de conditionnement. On n'est pas dans une réunion ou dans un lieu de pèlerinage. Ce n'est pas du tout ce genre de choses-là. Une grande diversité de situations. Il y a des personnes en souffrance. Il y a des personnes qui croyaient plus en rien. Il y a des lieux, des contextes différents. Il y a des apparitions personnalisées, apparitions à Jacques, apparitions à Pierre. Il y a des apparitions à des groupes, les apôtres. Et Paul parle même de plus de 500 frères à la fois. Apparu à plus de 500 frères à la fois. Là, il y a eu à un moment donné un moment où le Seigneur s'est fait... Il y a eu 500 personnes. Hein. Alors, on ne peut pas imaginer que 500 personnes aient été victimes d'une hallucination collective. Hein. 500, disons, ça représente beaucoup de choses. Hein. Et chaque fois, ça a provoqué. C'est une pièce de théâtre où c'est Pilate qui fait faire toutes les enquêtes sur le tombeau. Et c'est absolument génial comme pièce, parce que ça donne tous les arguments pour dire, mais oui, en effet, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé qu'on maîtrise pas. Juste pour dire hein, que certainement, ils avaient des éléments qui pouvaient les faire réfléchir en suffisance. Oui. D'accord. Oui. Alors, on a la seule indication qu'on a sur cette apparition, c'est donc c'est Paul hein, qui parle de cette apparition du Christ à 500 personnes à la fois. En rappelant que Paul, quand il parle de ça, il dit « Je vous ai enseigné ce que j'ai aussi moi reçu. » Raconter tout ça, et aussi à 500 personnes à la fois. Donc ça donne aussi même de l'antériorité par rapport au moment où Paul écrit à cette chose-là. Alors, on ne sait pas vraiment dans quel cadre ça s'est passé. Alors, quand il dit à 500 personnes à la fois, c'est comme...